Bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes en automne, ça ne vous aura pas échappé. Je ne vis pas mon premier automne et pourtant, à chaque fois, je suis étonnée par ce changement. Le seul truc qui me fait réaliser que nous sommes en automne, avec les arbres qui sont encore verts, c'est l'odeur de mouillé, de pommes, de champignons, de fumée. Nous en parlions au bureau et Marjorie nous raconte qu'elle a croisé une femme dans la rue, dont le parfum l'a transportée. Elle avait envie de lui demander ce que c'était. Mais elle n'osait pas et puis elle s'est dit « Allez, ça sent trop bon, j'y vais ». Elle prend son courage à deux mains, la rattrape et lui demande. La fille, un peu étonnée, lui répond et Marjorie entend l'inconnu lui donner le nom de son propre parfum à elle, Marjo. Elle a pisté une inconnue pour avoir le nom d'un parfum qui est dans sa salle de bain. Comme quoi, on peut être accro à une odeur encore et toujours. On dit que l'humain a un flair minable et pourtant c'est fou ce que les odeurs peuvent provoquer chez nous.
Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 19 ans et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on a une mémoire des sons et des odeurs et quand on sent un parfum par exemple, ça nous rappelle notre maman. Bon, merci beaucoup, au revoir.
Aude, pourquoi une mémoire des sons et des odeurs? Pourquoi un parfum lui rappelle sa maman? Professeur Patrick MacLeod.
Nous avons une mémoire qui enregistre tout ce que nous sentons, mais la vie c'est long. Et la mémoire, elle a des capacités pratiquement illimitées, mais ça serait quand même encombrant si on se rappelait dans le détail...
De tout.
De tout, absolument. Donc, il y a un système de tri qui fait que notre mémoire a un comportement utilitaire. Elle nous garde au chaud ce qui est important pour nous. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que lorsque nous sommes très concernés par un événement... Nous éprouvons en général une émotion. Cette émotion, c'est un état particulier du système nerveux, du cerveau, qui n'est pas permanent et qui se traduit par des mots que tout le monde connaît, la colère, la joie, la peur, etc. Et quand il y a des événements importants pour nous, en général, nous ne restons pas calmes, nous sommes émus. Et cette émotion a l'effet de renforcer l'inscription du souvenir. Normalement, une chose que j'ai perçue en étant indifférent, je l'ai mémorisée, mais comme si c'était un petit peu sur le bord d'une étagère et que bientôt ça ira à la poubelle. En gros, si je ne me sers pas d'un souvenir, au bout de 10 ans, il est devenu irrécupérable. Par contre, si il m'est arrivé quelque chose, à n'importe quel âge de ma vie, dans un contexte d'émotion, à ce moment-là, cette chose sera inscrite définitivement. Et quand je perçois au présent une sensation, ça peut être un son, ça peut être une odeur, mais ça peut être aussi de l'ordre de la température ou de l'ordre de la vision. Enfin, il n'y a pas de sens qui soit hors de la mémoire, ils sont tous servis de la même façon. Eh bien, quand je perçois quelque chose, je vais automatiquement faire les appels dans ma mémoire pour comparer ce qui se passe maintenant à ce qui s'est passé avant. Et je pourrais ainsi identifier l'objet présent en fonction de mon histoire passée avec cet objet. Bien entendu, les souvenirs les plus forts qui nous ont donné des émotions fréquentes, c'est les rapports avec nos parents quand nous étions enfants. Et donc, nous avons un petit stock de références mémorisées qui datent de cette époque et qui vont servir de référence de base pour à peu près tout ce qui nous arrivera jusqu'à notre mort.
Mais j'ai l'impression que ce qui déclenche les souvenirs les plus forts, peut-être les plus rapides, c'est quand même l'odeur, Patrick MacLeod, ou c'est une impression?
Enfin, disons, c'est une observation juste qu'on trouve dans la littérature, et les gens qui ont mentionné tout ça, en général, c'était basé sur des perceptions, des constats bien réels. Simplement, ils l'ont attribué à l'odeur, alors que la molécule odorante qui est entrée dans notre nez n'y est pour rien. Ah. Par contre, il se produit la chose suivante, c'est que dans le cas des odeurs, on est sans vocabulaire, à cause de la situation qui n'a pas d'observateur standard. Parce que ce que j'ai dit pour les goûts, ça s'applique aux odeurs aussi. On est tous différents. Donc on ne peut pas faire de vocabulaire. Donc les odeurs dont on se souvient, c'est par leur qualité olfactive et par notre vécu à nous, avec cette odeur. Le vocabulaire n'est pas là pour apporter la touche culturelle qui rendrait les références homogènes.
Patrick MacLeod est président de l'Institut du goût, ancien directeur du laboratoire de neurobiologie sensorielle à l'École pratique des hautes études. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons comment on siffle, combien il y a de touches sur un clavier d'ordinateur chinois et pourquoi on raconte aux enfants des histoires qui font peur. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 27 ans et je voudrais savoir si les araignées pensent et d'une manière plus générale, s'il faut avoir des neurones pour avoir une pensée. Merci, au revoir.
Bonsoir Julien, 27 ans. Christine Rollard, spécialiste des araignées, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur avec Vincent Tardieu d'Arachnache et Belin. Vous pouvez répondre à Julien, est-ce que les araignées pensent et leur histoire de neurones ?
Et oui, bonjour Julien. Ben effectivement, donc on peut pas dire que les araignées pensent. Elles n'ont pas un cerveau, hein, donc comme nous, comme les vertébrés. Ce sont des animaux qui étaient classés avant dans les ce qu'on appelle les invertébrés, je mets des guillemets, hein, puisqu'on n'utilise pas forcément ce terme maintenant. Mais elles ont un système nerveux, donc quelques ganglions qui sont reliés uniquement à leurs organes sensoriels. Alors les organes sensoriels qui peuvent être les yeux, hein, en particulier, et toutes les soies et les épines qu'elles ont sur les pattes et qui vont leur permettre de ressentir un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc ce système nerveux est relié aux organes sensoriels en priorité. Mais il n'y a pas du tout de pensée derrière. Hein. Donc c'est vraiment quelques petits ganglions, hein, donc il y en a un qu'on peut appeler éventuellement cerveau entre guillemets, mais qui vont être uniquement donc avec ses fonctions. Donc l'araignée ne pense pas. Donc quelquefois quand on me dit regardez cette araignée, elle a eu peur. Non, la peur c'est humain. Et effectivement, on a un cerveau avec des neurones derrière qui vont nous permettre d'avoir une assimilation au niveau de neuronal de tout ce qu'on peut ressentir. Ce n'est pas du tout le cas en fait de des insectes, des araignées, des mille-pattes par exemple, ou encore des crustacés pour citer donc les groupes qui sont dans les arthropodes, donc les animaux à pattes articulées. Donc tout ça c'est uniquement donc sur les vertébrés qu'il peut y avoir ce type de pensée, de peur, de sensation, de mal-être, et qui ne se retrouve absolument pas en fait chez les araignées.
Avez-vous peur des araignées ? Moi, personnellement, je suis pas très tranquille. Mais il faut leur offrir le gîte et le couvert pour l'hiver, d'autant qu'elles sont complètement inoffensives. Il faut leur demander de se cacher si on en a peur. Elles acceptent, vous verrez.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a
Tracy Chapman, que vous aviez reconnu bien sûr.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bernadette Bricout, nous la connaissons bien aussi sur France Inter en général et aux petits bateaux en particulier. Elle était vice-présidente de l'Université Paris Diderot.
Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 6 ans et j'aimerais savoir pourquoi on fait des histoires qui font peur aux enfants.
Bernadette Bricout.
Baptiste pose une question fondamentale. Merci Baptiste, il a 6 ans, mais il pose une question fondamentale. Parce que Baptiste, les seules histoires qui aient été conçues à l'usage exclusif des enfants, ce sont pas les contes merveilleux. Les seules histoires qui aient été conçues dans toutes les sociétés, sous toutes les latitudes, à l'usage exclusif des enfants, ce sont des contes qui se terminent mal. Donc des contes qui font peur. Des contes qu'on appelle des contes d'avertissement. Et ces contes sont destinés à mettre en garde l'enfant contre un danger. Contre le feu, contre l'eau, contre le loup, contre l'agresseur possible. Si je te dis simplement « fais attention », peut-être, alors tu es très sage Baptiste, donc tu l'entends, mais il y a des enfants qui ne l'entendront pas. Alors que si j'illustre le conte par un récit de peur, par un récit qui se termine mal pour le héros du conte, alors on l'entendra et peut-être qu'on s'en souviendra. Ainsi, j'ai eu à l'université un maître qu'il me plaît d'évoquer, c'est un grand spécialiste du conte qui s'appelle Marc Soriano. Et Marc Soriano habitait au 5e étage d'un immeuble et il avait 3 filles qui avaient toujours envie de regarder ce qui se passait dans la rue. Alors les parents étaient très inquiets parce que c'était dangereux et un jour Marc leur a dit « Eh bien, il y a, savez-vous, au 4e étage, juste en dessous de chez nous, une terrible sorcière qui s'appelle la fée pesanteur. Et lorsque les enfants se penchent par le balcon, elle essaie de les tirer en bas. Les 3 petites sœurs se sont penchées par le balcon. L'aînée a dit « c'est horrible, je la vois, je la vois ». Elle a un visage terrible, elle avait vu la fée pesanteur et elles ne se sont plus jamais penchées par le balcon. Eh bien, il y a des histoires comme ça qui nous disent que si tu ne te mouches pas, ton nez va pourrir, que si tu mets tes doigts dans ton nez, tu vas être obligé de le traîner dans une brouette parce qu'il deviendra trop gros, que si tu veux pas te laver les cheveux, peut-être les poux vont venir, ils vont faire une corde de tes cheveux, ils te traîneront à la rivière et tu te noieras. Alors on a pu parler à propos de ces contes d'une pédagogie de la peur, elle est beaucoup moins en vogue aujourd'hui, mais je suis sûre, Baptiste, toi qui es un enfant très sage, que tu n'as pas besoin de récits de peur pour grandir.
Effectivement, c'est moins en vogue maintenant de raconter des histoires abominables aux enfants. Cela dit, ils ont un ordinateur et ils peuvent en voir des choses sur cet ordinateur.
Bonjour, je m'appelle Félix Guérin, j'ai 11 ans et je voudrais savoir combien il y a de touches sur les claviers des ordinateurs chinois. Merci.
Génial Félix, on est tellement nombreux à se poser cette question. Merci de nous avoir téléphoné. Félix, tu demandes combien il y a de touches sur le clavier des ordinateurs chinois. Les ordinateurs, ça vous connaît, Michel Baudouin-Lafont, vous êtes professeur d'informatique, entre autres, à Paris-Sud. Alors combien de touches pour les Chinois ? Demande Félix.
Bien mon cher Félix, je ne connaissais pas la réponse.
Ah.
Et alors j'ai demandé à mon étudiante Abby, qui était une étudiante chinoise, qui fait une thèse avec moi, et elle m'a tout expliqué. Alors, le chinois, c'est un langage idéographique, c'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir des lettres pour composer des mots, chaque mot est représenté par un caractère qu'on appelle un idéogramme. Et donc, il y en a des milliers et des milliers. Mmh. Et les Chinois ne connaissent pas tous les idéogrammes. Alors, évidemment, pour faire un clavier, c'est pas commode. Un clavier avec des milliers de touches, ça va pas être très transportable. Alors, il y a 2 méthodes, en fait, qui sont utilisées par les Chinois pour taper du chinois sur des claviers normaux. Enfin, normaux pour nous. La première, c'est le pinyin. Donc, c'est une méthode phonétique. Donc, il tape ce qu'on appelle la romanisation du mot, c'est-à-dire la façon dont il se prononce.
Si je tape Tiaozi, je fais le T, le I,
voilà,
le A.
Exactement. Le système reconnaît en fait les différents idéogrammes qui correspondent à cette prononciation, parce qu'en fait, pour une prononciation, il y a plusieurs idéogrammes. Oui. Et ensuite, l'utilisateur choisit le bon. Alors, c'est bien. Mais il y a une méthode qui est plus efficace, même si elle est moins utilisée, qui s'appelle Zhuyin, mais aussi Bopomofo, du nom à nouveau des premiers caractères sur le clavier. Ici, en fait, le clavier sert à écrire l'idéogramme avec, sur chaque touche, une partie différente de l'idéogramme. Donc on compose l'idéogramme en tapant plusieurs touches pour l'assembler, et puis après on valide. Et cette méthode, lorsqu'on est habitué, est reconnue comme étant plus efficace, mais elle est moins pratiquée.
C'était Vaudou Game Tata, fatigué. Travaillait toute la journée pour gagner la misère. Il travaillait toute la journée, mais c'était il y a bien longtemps et ils étaient dans la forêt. Donc, ils n'étaient pas tristes de travailler toute la journée. Et puis, ils avaient un truc. Ils sifflaient, les sept nains.
Bonjour, je m'appelle Philippine. J'ai 7 ans et demi. Je suis en CE1 à l'école Pomard. Et je voudrais savoir comment on siffle en faisant des notes. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Marius, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir comment le sifflement sort de notre bouche. Merci de me répondre, au revoir.
Alors Marius et Philippine, nous avons trouvé un spécialiste du sifflement, un linguiste exactement, et bioacousticien, chercheur au CNRS, au Gipsa Lab, qui est un laboratoire de recherche sur la parole à l'université de Grenoble. Julien Meyer, comment on siffle en faisant des notes et comment le sifflement sort de notre bouche, demandent Philippine et Marius.
Alors bonjour Philippine et Marius, c'est vrai que siffler ça s'apprend. C'est pas évident, même si une fois qu'on le maîtrise, comme quand on parle ou comme quand on marche, on a l'impression que ça va de soi. En fait, ça nécessite beaucoup de contrôle de toute la colonne d'air, comme quand on chante. Donc c'est très technique. La hauteur du sifflement, les notes, dépendent de trois facteurs. La taille de l'ouverture de la bouche, la vitesse de l'air qui sort de la bouche, et la taille de la zone dans laquelle le son va résonner, donc la taille de la cavité de la bouche. Et tous ces facteurs sont contrôlés de manière un peu différente. C'est une tâche très complexe qui implique la plupart des organes de la respiration et aussi le contrôle des cordes vocales, plus pour la vibration comme dans la voix ou comme dans le chant, mais l'ouverture et la fermeture du flux d'air. Et d'ailleurs, par exemple, on peut faire des sifflements où on fait un vibrato, donc un changement, on dit de modulation du sifflement. Donc on peut le faire soit en amplitude, c'est-à-dire avec la force du son.
Donc beaucoup d'air.
Ou soit en hauteur de note, donc on l'appelle aussi la fréquence. Donc par exemple, si je donne les deux exemples, il y en a un où on va fermer et ouvrir les cordes vocales, ça va faire... Et l'autre où on va bouger la langue pour changer la note, et donc changer la taille de la bouche et donc de la cavité de résonance, comme dans un instrument de musique. Et à ce moment-là, ça donne... Dans le premier, c'est les cordes vocales qui ouvrent et qui ferment. Dans le deuxième, c'est la cavité qui change. Donc là, j'ai séparé les deux effets, celui de la cavité et celui des cordes vocales qui contrôlent le flux d'air.
Et si vous voulez le faire, ce que vous venez de faire encore plus fort?
Alors justement, si je contrôle en plus le flux d'air... Donc, c'est là où j'ai la source du son. La source du son, c'est... Donc, je peux faire... Ou alors...
Vous aspirez?
Non, là, j'expire. Hein. On peut le faire en inspirant aussi. Ce qui compte, c'est pas que ça sorte ou que ça rentre. Ce qui compte, c'est que l'air frotte au niveau d'une zone où c'est très, très étroit. Et les physiciens ont pas terminé de décrire ça. C'est un phénomène très complexe qu'on appelle un phénomène de turbulence d'air qui rentre en vibration avec autour des lèvres des couches limites et au milieu un flux qui vibre et qui du coup, ce flux fait un choc qui va résonner dans la bouche. Donc c'est très compliqué et du coup ça implique beaucoup de contrôle qui sont intéressants pour mieux comprendre la précision du contrôle articulatoire de l'être humain, mais aussi des animaux qui sifflent.
Il y a des animaux qui sifflent?
Alors, ben,
il y a les oiseaux.
Voilà, les oiseaux, ils sifflent. Alors, eux, ils n'utilisent pas exactement le même organe que nous, mais par exemple, pour étudier l'évolution ou les débuts de l'évolution du contrôle articulatoire chez l'être humain, on regarde chez les singes. Et il y a, par exemple, depuis pas longtemps, on sait que dans des zoos, il y a des orang-outans qui sont mis à siffler, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'ils arrivent à contrôler tous ces aspects-là, parce qu'ils arrivent à imiter un soigneur qui sifflait, là, et c'est comme ça qu'apparemment cette pratique est née chez les orang-outans dans les zoos.
Vous pouvez réécouter cette réponse, ainsi que toute l'émission, sur franceinter.fr. Élise Christophe Eliane, Gérard Marjorie de Voucou, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou.